Dans la postface de votre livre « Pensez avec, pensez contre », vous évoquez votre enfance dans une ZUP de Mirecourt, dans les Vosges, les violences de votre père et l'aide que votre famille recevait des dames patronesses du lieu. Les deux branches de votre famille, des paysans ouvriers d'un côté, un grand-père pétainiste de l'autre, ont incarné, je vous cite, deux façons d'être vaincus par l'histoire. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, Gérard Noiriel, c'est celle-ci. Comment avez-vous vécu l'entrée dans les grandes institutions parisiennes quand vous êtes devenu historien ?
Disons que j'ai vécu cet événement, c'est-à-dire ce recrutement comme Prague à l'ENS Ulm, comme un honneur, enfin une chance, hein, puisque j'avais soutenu ma thèse en 1982 et j'étais sans poste, enfin j'étais dans le secondaire, et donc je cherchais un petit peu un poste tous azimuts, j'avais candidaté un peu partout, donc finalement c'était une grande chance. Et puis pour moi c'était un univers complètement, on va dire quelque part, très familier sur le papier, puisque évidemment beaucoup de gens dont j'avais lu les œuvres étaient passés par là, mais très étranger par rapport à toute une série de choses que j'ai découvertes par la suite, notamment enfin, les rivalités, les susceptibilités qui pouvaient exister entre telle ou telle institution. Mais voilà, donc cette expérience, je ne l'ai pas vraiment ressentie de façon traumatisante, enfin, comme Pierre Bourdieu, par exemple, a pu le dire dans sa sociologie sur la par rapport, enfin, aux élèves, hein, par rapport à l'entrée des élèves de milieux modestes. Donc moi, c'était peut-être parce que c'était plus tardif, parce que j'avais plus de 30 ans à ce moment-là. Et puis peut-être parce que j'étais protégé aussi, parce que j'avais quand même déjà publié, c'était en 1985, je crois, ou 86, donc voilà, donc il y avait... Et puis l'accueil, disons que j'ai été laboratoire de sciences sociales, qui est maintenant boulevard Jourdan, était alors une petite équipe, hein, très, très artisanale, avec comme maître d'œuvre, on pourrait dire, Jean-Claude Chambourdon, qui j'ai eu des liens très très forts, et qui a joué le rôle, je dirais, un petit peu de grand frère, quoi, pour moi. Donc, non, ça c'était plutôt une chose positive et intéressante pour moi. Les problèmes sont venus peut-être après, mais pas tellement sur le côté, je dirais, social. C'est-à-dire, j'ai pas trop ressenti cette espèce de différence d'ordre social, mais c'est plutôt par rapport au fait, je l'ai écrit aussi, que moi j'avais une conception complètement livresque de la science. Donc tous les gens que j'étais amené à inviter, puisque je m'occupais du débat de sciences sociales, en fait, je les avais lus, hein, presque, enfin la plupart. Et donc, ça a été très important même dans le type de recherche que j'ai fait après, c'est-à-dire la différence de relation que vous avez avec les gens quand elle est indirecte, c'est-à-dire médiatisée par l'écrit, ou directe. Et ça a été pour moi un gros problème, j'allais dire d'ordre métaphysique, c'est-à-dire, moi j'avais un idéal de la science qui était de dire, bon ben voilà, la liberté de la critique, c'est même une sorte de reconnaissance qu'on porte à quelqu'un quand on peut le critiquer. Et là j'ai découvert évidemment toute la dimension sociale, j'allais dire, voire anthropologique du milieu. Et donc après, c'était beaucoup plus dur pour moi après de continuer à maintenir cet idéal critique à l'égard de personnes que je connaissais directement. Donc j'ai mieux compris pourquoi aussi il y avait si peu finalement de débats critiques en France, parce que je crois que c'est un effet de la centralisation parisienne des grandes institutions qui fait qu'il y a une sorte de paralysie. Donc c'est ce que j'ai expliqué un petit peu dans mon livre sur les intellectuels, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas d'espace possible pour une critique un petit peu sereine, parce que c'est des querelles de famille, si on veut, quoi. Donc ça, effectivement, c'est à ce niveau-là que mon entrée brutale, j'allais dire, dans la sphère parisienne a été problématique.
Mais je me souviens que vous dites aussi dans un de vos livres, ce qui est difficile quand on s'élève socialement et dans la sphère intellectuelle, c'est de rester fidèle au milieu dont on vient. Est-ce que vous avez ressenti ce genre de problèmes ou de problématiques.
Oui, oui, c'est ça, cette question, effectivement, je crois que cette question, d'ailleurs, on peut la voir dans tous les débats qu'on a autour de la question de l'immigration, etc. Pour moi, elle est beaucoup plus large que simplement un problème d'immigration, même si elle peut être ressentie plus fortement, évidemment, quand s'ajoute à cela la question de l'immigration. C'est la question des transfuges sociaux, c'est effectivement la différence de milieu, et surtout, parce que ça dépend encore les différences de milieu, si vous êtes dans un milieu où tous vos frères et sœurs, par exemple, ont évolué globalement de la même manière, c'est peut-être moins douloureux, mais moi j'ai deux frères, mes deux frères sont ouvriers, si vous voulez, donc évidemment c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, ne serait-ce que dans les réunions de famille, ou sans arrêt, vous savez, ce discours spontané des classes populaires à l'égard des intellectuels, payés pour rien faire, etc., etc. Donc c'est une des raisons que j'ai essayé d'expliquer, que pourquoi j'ai jamais pu, je ne peux pas faire autrement que de me poser la question de l'utilité de la science, vous voyez, c'est parce qu'autrement je ne pourrais pas justifier un certain nombre de privilèges que j'estime avoir comparé à ce milieu d'où je viens, si vous voulez. Évidemment, pas par rapport à d'autres fractions de l'élite, au contraire, où là, j'estime que les universitaires sont plutôt malmenés par les temps qui courent. Mais voyez, donc c'est la raison principale qui fait qu'effectivement, je me suis toujours posé ce genre de questions. Mais en même temps, là-dessus, je suis très, comment dirais-je, tolérant, c'est-à-dire je comprends tout à fait qu'on ne se pose pas ce genre de questions. Pour moi, ce n'est pas obligatoire de se les poser. On a tous chacun un certain nombre d'éléments qu'il faut agencer dans sa propre existence, mais pour moi, voilà, ça se passe comme ça.
Pour revenir sur la question de l'histoire de l'immigration, qui est un des champs que vous avez contribué à ouvrir avec votre livre Le Creuset français, paru en 1988. C'est ce livre qui vous a rendu notamment célèbre auprès du grand public. Et l'immigration, aujourd'hui, 20 ans après, est devenue un objet d'histoire à la suite de vos travaux, ainsi qu'un lieu de mémoire. Elle n'est plus un non-lieu de mémoire, comme vous le déploriez dans l'introduction de votre livre. Le dynamisme de ce champ, aujourd'hui, vous satisfait-il? Jugez-vous, au contraire, que l'effort n'est pas assez marqué, comparé, par exemple, à l'engouement qui peut avoir lieu aujourd'hui pour les études coloniales et post-coloniales?
D'abord, ce que je voulais dire, c'est que c'est ce mouvement qui a permis l'émergence de l'histoire des migrations comme domaine autonome. J'ai joué un rôle, mais ça a été une démarche collective. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que pour moi, vous savez, vous l'avez vu peut-être aussi par rapport à d'autres initiatives que j'ai pu prendre, la dimension collective de l'action, c'est toujours fondamental. C'est aussi là quelque chose de, je dirais, voyez, qui pour moi ne se discute même pas, c'est existentiel, je dirais. Et donc j'ai toujours essayé, c'est la difficulté d'ailleurs, hein, d'un côté de maintenir une dimension critique, voyez, toujours, ne jamais transiger avec ce qu'on croit être la vérité, même si on se trompe sur le moment où on le dit, hein, et puis en même temps de maintenir des liens de sociabilité de façon à constituer et à maintenir des collectifs. Ça, c'est une grosse contradiction sur laquelle on réfléchit pas souvent, mais qui pour moi est importante, parce que mon livre sur les intellectuels, j'ai montré que des gens comme Péguy, à mon avis, ou plus récemment peut-être des gens comme Bourdieu, avaient été eux aussi pris dans ces contradictions-là. Et donc, effectivement, alors quand j'ai commencé mes recherches donc sur l'immigration d'abord en Lorraine et puis après en généralisant sur le Creuset français, c'était un objet qui n'était pas du tout légitime, hein. Moi j'avais des gens qui me disaient on fait pas carrière, on fait qu'une thèse sur l'immigration, c'était clair, mais moi à l'époque je ne pensais pas non plus, hein, faire carrière, tout ça s'est fait par la suite, etc. Bon, mais et donc aujourd'hui, eh bien effectivement c'est pareil pour Nancy Green, hein, qui s'est engagée aussi à ce moment-là, c'est une satisfaction de voir que c'est un domaine autonome, vivant, avec toute une nouvelle génération formidable qui fait des tas de choses. On a le sentiment, là vraiment j'ai le sentiment d'une satisfaction, et que je dirais presque aujourd'hui, j'en suis encore pas à la veille, enfin tout à fait, de la retraite, mais où je pourrais me dire, bon, je peux partir en retraite tranquille. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que, alors je vois tellement, vous voyez, dans notre métier, de collègues formidables qui ont fait des choses très savantes, etc., mais qui sont seul, vous voyez, qui a ce senti, l'isolement, ça existe dans le métier de chercheur, faut pas croire, et qui sentent que bien, on va considérer que c'est dépassé, ou qu'enfin tous ces termes très polémiques qui sont très cruels dans notre milieu, bien peuvent avoir des effets aussi par rapport à la recherche. Et donc de ce point de vue-là, moi je suis content. Alors par rapport au champ l'histoire coloniale, alors au départ il y a une intersection entre histoire des migrations histoire coloniale, donc on n'est pas totalement extérieur, mais ce que je dirais, c'est que le milieu d'histoire des migrations, moi ce que j'apprécie, c'est qu'il est beaucoup plus serein que le milieu d'histoire coloniale. C'est-à-dire nous avons réussi finalement à maintenir un minimum de sociabilité commune. C'est pour ça d'ailleurs, pour la démission de la Cité de l'immigration, qu'on a pu le faire collectivement, parce qu'on a beau avoir des approches qui peuvent être différentes, parfois divergentes, il y a quand même quelque chose en commun. Et quand dans le monde de la science, vous n'avez rien en commun, moi c'était ce qui m'avait frappé dans la génération d'avant, les grands intellectuels critiques, etc., mais quand vous voyez, ils n'avaient rien en commun les uns avec les autres, au fond. Donc ça, c'est pas possible. Une discipline scientifique doit préserver un espace commun. Moi, je suis très content qu'on ait réussi à le faire dans le domaine de l'histoire de l'immigration, que c'est beaucoup plus compliqué dans le domaine de l'histoire coloniale, vous voyez, les polémiques. Et puis, il y a un autre effet, c'est l'effet médiatique. C'est-à-dire, et ça, c'est très contradictoire à gérer. Alors, vous pouvez me dire, également, dans l'histoire des migrations, on a bénéficié d'un effet médiatique. Mais dans l'histoire coloniale, c'est bien pire, parce qu'on est toujours dans la dénonciation, dans la repentance, dans tous ces phénomènes-là qui vont toujours donner la prime aux faiseurs, ce que j'appelle les faiseurs, c'est-à-dire aux gens qui vont parler très fort, qui vont faire des scandales, mais qui au fond n'ont rien à dire, quoi. Donc les chercheurs, les vrais chercheurs, c'est pas forcément en histoire coloniale, les plus savants, à mon avis, c'est pas les plus connus, hein. Donc là-dessus, moi je n'envie pas actuellement l'historiographie de la colonisation. Je pense qu'ils ont ils ont beaucoup de difficultés à travailler ensemble. Et donc de ce point de vue-là, non, je ne peux pas du tout manifester la moindre frustration, au contraire.
Alors dans la démarche socio-historique que vous appelez de Beauvau, vous disiez dans le petit livre que vous aviez écrit dans la collection Repère qu'il faut notamment, du point de vue du socio-historien, prendre les concepts avec des pincettes. Et il y a un concept qui, dans votre travail, a été très tôt discuté, critiqué, c'est celui de l'identité, qui est bien sûr au centre de débat public aujourd'hui, mais pour en rester pour l'instant à une question savante, vous avez très tôt critiqué et abandonné la notion d'identité et lui préféré désormais la notion d'identification. Alors nous voudrions savoir ce que recouvre cette distinction conceptuelle et quels en sont les enjeux.
Oui, c'est tout à fait vrai. Le problème de là aussi, hein, c'est vraiment. Je me suis inscrit dans un mouvement global, hein. J'ai essayé d'expliquer ça justement dans le livre qu'on vient de sortir, là, qui s'appelle l'identification genèse d'un travail d'État. Je vais vous en faire. Pas vous en offrir trois, mais où je fais une petite introduction pour rappeler un petit peu la genèse de cette problématique de l'identification. C'est vrai que il y a eu une période qui correspondait à la période structuraliste aussi, hein, où dominait une analyse en termes d'identité. Vous voyez, chez Lévi-Strauss, par exemple, et qu'elle a été critiquée, c'était la période où j'étais étudiant, par des gens comme Foucault, ou Derrida, ou peut-être plus important pour nous, Jack Goody, hein, anthropologue. Et à partir de là, oui, ça résonnait aussi sur la scène politique, vous voyez, parce que c'est ce moment-là où le Front National a lancé, justement, son discours sur l'identité nationale, où Brodel a écrit son livre « L'identité de la France », etc. Et je vais dire, bon, le creuset français, c'est, vous savez, c'est une réaction contre l'identité de la France de Brodel, où il voyait rien, quoi. Enfin, ni la colonisation, ni l'immigration, enfin c'était vraiment une vision tout à fait, même sur le plan purement, je dirais, entre guillemets, scientifique, tout à fait contestable de l'histoire contemporaine de la France. Et donc, voilà, le passage à la problématique de l'identification permettait d'ouvrir toute une série de pistes aussi, et ça je crois surtout à ça, je veux dire par rapport au concept justement. Un bon concept, c'est celui qui vous permet de faire de bonnes recherches empiriques, vous voyez, qui ouvre, c'est un outil, vraiment c'est... Et donc là, identification, alors qu'on a l'impression de tourner en rond avec ces trucs d'identité, etc. Identification, voilà, ça vous... Pour le socio-historien, évidemment, ça vous mettait tout de suite au cœur des relations sociales, donc des formes de domination qui peuvent exister dans l'appréhension, dans l'assujettissement, dans l'appréhension d'autrui, etc. Donc c'était aussi également une approche de l'État, plutôt l'étatisation d'ailleurs que l'État. Hein. Donc pour moi, c'était tout à fait parlant, travaillant sur l'immigration, où j'avais rencontré très tôt ces questions de papier d'identité. Eh bien, alors qu'on était confronté à un discours culturaliste, vous voyez, ou de vivre notre communauté, enfin, vous voyez, c'est ce truc qui sont figés d'un côté comme de l'autre, hein, parce que vous avez des tas de gens qui critiquent l'identité nationale, mais qui sont pour les identités communautaires. Alors pour moi, c'est la même chose, hein, je veux dire, c'est au niveau du raisonnement. Ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus juste, du point de vue de la réalité sociale, c'est justement les processus d'emprunt, d'échange, de modification, ce que j'ai appelé aussi dans les identités latentes, c'est-à-dire des choses qu'effectivement on peut avoir en soi, mais qui n'ont pas forcément d'importance et qui peuvent être réactivées. Ça, c'est Elias nous sert beaucoup à comprendre ces choses-là dans un certain contexte, etc., etc. Donc là, il y avait un champ de recherche et possibilité de renouvellement de l'interdisciplinarité extrêmement riche. Oui.
Alors vous vous interrogiez il y a plus d'une dizaine d'années sur la crise de l'histoire. Ça va me donner lieu à un livre. On pourrait se demander si les choses se sont aggravées ou stabilisées. Est-ce que, à votre avis, le morcellement de la discipline, l'éclatement des savoirs se sont accentués? Et si oui, j'ai l'impression à ce moment-là que les grands discours sur l'interdisciplinarité, sur la communauté des historiens, ces grands discours deviennent vains à ce moment-là.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que dans ce livre, j'avais essayé de raisonner à partir d'une réflexion sur la philosophie pragmatiste ou la notion du nous, hein, puisque j'en avais justement un petit peu soupé, j'allais dire vulgairement, de ces ouvrages épistémologiques, style Paul Venn, si vous voulez, ou comment on écrit l'histoire, etc. Parce que je trouvais, si vous voulez, c'est pas que ce livre, bon, enfin, très savant, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la communauté des historiens, si je puis dire, parmi les historiens, je dirais la plupart des historiens disaient « j'y comprends rien ». C'était ça qui me frappait, les gens disaient « j'y comprends rien », mais personne n'osait le dire publiquement. Moi, c'est ça qui m'énervait, mais je dis « mais pourquoi ne pas aborder ce problème-là » Et c'est pas seulement là, parce que le livre, j'étais étudiant, quand le livre de Paul Venn est sorti, ou de Certeau, si vous voulez, c'est un petit peu la même chose, l'idée de à qui on parle quand on écrit, pour qui on parle. Vous voyez, c'est ce truc-là aussi du réflexe. C'est-à-dire, et je me suis rendu compte après par mes lectures philosophiques, qu'effectivement, ça engageait deux rapports ou deux conceptions du langage, la conception où le langage est vu comme une représentation de la réalité, et puis la conception pragmatiste où le langage est vu comme un outil de communication. Donc à partir du moment où vous entrez dans une problématique, une perspective, surtout pour moi qui pense à l'utilité, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, c'est ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire, eh bien, quel est le public auquel on s'adresse quand on écrit, et donc, quel est le nous dans lequel on se positionne. Mais là où, effectivement, ce que je penserai encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, c'est que ce nous historien, quand, concrètement, sociologiquement, il n'a pas beaucoup de sens. Hein, il n'a pas beaucoup de sens, surtout en France où on n'a pas des communautés professionnelles comme ça peut exister dans certains pays, et que même le mot historien, c'est un enjeu de lutte. Si vous voulez, on l'a vu dernièrement avec les pétitions au contraire, ou est-ce qu'Alain Decaux est un historien? Pour nous, professionnels, on aura tendance à considérer que non, hein, mais vous voyez, bon, on n'a pas non plus forcément le monopole de la définition des mots. Donc c'est un enjeu de définition, et malgré tout, je pense que ça existe aussi, les communautés de compétences. Ça, je maintiens cette idée-là, mais c'est des réseaux, souvent d'ailleurs internationaux aujourd'hui, de spécialistes qui sont beaucoup plus limités qu'une discipline, et qui peuvent inclure d'ailleurs des gens qui ne sont pas de la discipline. Moi, je travaille plutôt aujourd'hui avec des sociologues, des politistes, plus qu'avec des historiens. Donc voilà, la communauté de compétences, il faut l'avoir aujourd'hui effectivement de façon transdisciplinaire. Mais ce que je voulais dire malgré tout, c'est que L'étiquette historien, étant donné qu'elle existe, qu'elle est institutionnalisée, engage malgré tout un certain nombre de collectifs, c'est-à-dire de sentiments du « nous ». Mais peut-être que dans le cas français, ça va passer plus, par exemple, par l'agrégation d'histoire, par l'enseignement, peut-être plus que par la recherche. Mais ça, il faudrait creuser. Moi, j'avais fait quelques pistes, mais...
Dans cette crise de l'histoire, vous diriez que ça, les choses se sont accusées ?
Alors,
est-ce que le morcellement est arrivé jusqu'à une atomisation totale où chacun travaille dans son coin ?
Voilà, alors je précise bien que le mot « crise » avait été mis entre guillemets dans ce livre et que c'était une analyse sur le débat sur la crise. C'était pas moi qui disais « il y a crise » parce que ce serait contradictoire avec ma critique de base qui est de dire « nous sommes juges et partis dans cette affaire-là ». Donc il n'y a pas de critère objectif qui permettait de transcender le discours des protagonistes. Mais disons que c'est vrai qu'aussi dans le premier chapitre, j'avais pointé un certain nombre d'éléments qui justifiaient que certains puissent parler de crise et que effectivement cette atomisation des objets de la discipline en constitue un élément. Alors de ce point de vue-là, oui, je n'ai pas suivi vraiment de très 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 près l'évolution des choses, mais c'est mon sentiment, c'est qu'effectivement on a un approfondissement de cette atomisation en objet de plus en plus limité, et puis aussi un des effets de l'internationalisation qui se renforce également beaucoup aujourd'hui, et puis des nouveaux outils de communication comme Internet, etc. Donc ça rend de plus en plus improbable effectivement des regroupements par discipline. D'ailleurs, on en a des preuves tous les jours.
Aujourd'hui, vous l'avez dit, un ministère est chargé à la fois de l'immigration et de l'identité nationale. Enfin, à mon avis, ceci traduit un mouvement de fond qu'on voit dès les années 80. Des lois aujourd'hui sont votées qui traduisent ce qu'on pourrait appeler une lepénisation des esprits, ou en tout cas le travail souterrain effectué par le Front National depuis sa création. Et comme vous le soulignez aussi, l'immigration est désormais présentée au sommet de l'État comme un problème, et même un problème grave. La question que j'ai envie de vous poser désormais, c'est cette situation signe d'une certaine manière l'échec, ou du moins l'impuissance, d'un certain travail de l'histoire ou du chercheur en sciences sociales. Donc, à votre avis, est-ce que vous faites le constat de votre échec, au sens collectif, de votre impuissance, ou préférez-vous dire que il y a eu un travail d'historien, de chercheur, mais que celui-ci a été oublié, détourné, voire instrumentalisé?
Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire pour ressentir cette évolution comme un échec. Je pense que justement, il faut avoir une lucidité. Si on ne l'a pas à l'égard de soi-même, alors quelle leçon, quel exemple on peut donner? Donc moi, si vous voulez, qui ai commencé vraiment à m'investir à fond sur ces questions d'immigration, alors que le Front National représentait même pas 1% de l'électorat, comprenez bien que je serais quand même malvenu d'aller dire c'est formidable, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, d'abord, il faut être capable justement de remettre en question aussi ce qu'on croyait ou ses propres analyses ou ses propres investissements, etc. Et sans renoncer à son idéal, parce que ça, c'est pas de l'ordre, vous voyez, de la discussion, je veux dire. Et donc, c'est ce que j'ai été un peu amené à faire dans mes tout derniers travaux, notamment sur la question du racisme, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore forgé les outils qui nous permettent de comprendre les stratégies politiques à l'âge des médias, si on veut. C'est-à-dire que, on le voit très bien, regardez par exemple dans l'actualité toute récente, avec le discours de Sarkozy sur l'Algérie, où il dit totalement le contraire de tout ce qu'il a dit pendant la campagne électorale. Comment c'est possible, ça? Vous dites, on est vraiment dans des discours de l'instant, maintenant, vous voyez? Discours de l'instant, qui sont adaptés à un public et à un objectif, à des fins. Alors là, c'est le pragmatisme poussé à l'extrême, vous voyez, aux fins immédiates. Les fins immédiates de la campagne électorale, c'était de prendre des voix au Front National. Les fins immédiates de la conjoncture actuelle, c'est de se réconcilier avec l'Algérie, etc. Donc vous êtes comme ça confrontés constamment. Et donc ça c'est terrible pour nous, intellectuels qui croyons encore à l'argumentation et à la raison, eh bien là, nous sommes effectivement dans un contexte tout à fait difficile. Et donc, on a besoin d'affiner nos outils pour comprendre comment ça fonctionne. Et je crois, moi, maintenant, c'est aussi dans mon travail où j'ai évolué en m'intéressant de plus en plus à la rhétorique, par exemple. Vous voyez, j'ai repris d'ailleurs dans mon livre sur l'immigration, antisémitisme et racisme, c'est la question de l'antisémitisme à partir de la rhétorique. C'est-à-dire comment l'art de la persuasion, c'est ça la rhétorique. Hein. Et on voit très bien que à l'époque de Drummond, déjà, ça fonctionnait très bien. Et on n'a pas vu ça chez Drummond. On a voulu voir chez Drummond un théoricien de l'antisémitisme qui aurait utilisé le discours racial, l'anthropologie raciale, etc. Mais quand on lit de près la frange juive, il faut avoir un certain courage. Hein. Eh bien, on s'aperçoit constamment, il fait des références à l'actualité. Et il fonctionne sur le mode de l'évidence. Hein, c'est donc, vous voyez, l'actualité nous amène aussi à améliorer nos outils peut-être d'analyse du passé historique, mais je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, on est arrivé à un stade peut-être extrême dans les usages de la rhétorique et donc l'audiovisuel ou des médias à des fins politiques. Et donc c'est aussi un problème parce que, on voit l'extrême droite, le Front National, comme une sorte d'extrémiste du même type que celui des années 30, à mon avis, on ne peut pas comprendre non plus ce que j'appelle moi le nationalisme soft, hein, un nationalisme qui est finalement compatible avec les principes fondamentaux de la démocratie, qui ne menace pas d'anéantir les institutions, qui est très bien perçu par les journalistes, par les médias, vous voyez, voilà, et donc on est confronté à des difficultés aujourd'hui de lutter contre ce que vous appeliez la lepénisation des esprits, et en même temps, ça ne concerne pas que la France. Il faut bien souligner qu'on est là dans une logique qui transcende, qui dépasse l'Hexagone, puisqu'en Suisse, vous savez, en Belgique, aux Pays-Bas, dans d'autres pays, on a des logiques comparables.
Mais quel discours, plutôt quelle leçon en tirer pour les historiens et les chercheurs en sciences sociales? Parce que, à vous entendre, votre constat est terriblement pessimiste. Ceux qui ont dit la vérité n'ont pas été entendus, voire ils ont échoué. Les menteurs ont triomphé, hein, si je porte les choses un petit peu de manière schématique. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas inversement une réflexion ou une auto-réflexion à mener de la part des historiens, des chercheurs en sciences sociales? Ils savent rechercher la vérité, ils savent la trouver, mais ils ne maîtrisent pas, comme les politiques, l'art de la persuasion. Alors ça pourrait être une question importante pour quelqu'un qui, comme vous, s'est penché justement sur la question du linguistic turn et les stratégies rhétoriques que les historiens peuvent parfois, ou sans le savoir, mettre en œuvre.
Oui, c'est en gros à ce type de constat que je suis arrivé, même par rapport à ma propre démarche. En même temps, j'essaye parfois de me raisonner au sens où j'ai, tendance à être toujours insatisfait par le fait. Et c'est une forme de prétention quelque part, parce que si vous prenez dans le passé, est-ce que ce ne sont pas toujours les menteurs qui ont gagné dans l'histoire? C'est pas forcément nouveau non plus. On ne connaît guère d'époque où les savants aient réussi à faire passer leur savoir. Et en même temps, on peut se dire, ça aurait pu être pire. Hein. Vous voyez, il y a toujours cette solution-là de ce recours, parce qu'il ne faut pas non plus désespérer vous voyez, Billancourt, on disait autrefois. Mais c'est-à-dire que, justement, c'est pour ça que c'est intéressant cette question du racisme, etc. Il y a quand même beaucoup de combats qui ont été gagnés. Hein, beaucoup de combats qui ont été gagnés. Effectivement, il y a des mutations. Et sur le court terme, c'est-à-dire sur la période que vous évoquiez des années 80 aujourd'hui, là, effectivement, on peut dire il y a une régression. Alors, effectivement, peut-être que là, en tout cas, c'est l'hypothèse que je fais, il faut qu'on soit capable de mieux différencier nos langages. Hein, par rapport à Marc Bloch qui disait que l'historien doit pouvoir parler de la même voix aux savants et aux citoyens lambda, moi je pense de plus en plus aujourd'hui que nous devons inventer des formes de traduction. C'est-à-dire que, bien sûr, quand nous faisons des travaux savants, nous devons parler le langage savant, mais si nous voulons que les résultats de nos recherches accède ou touche un public plus vaste, que ce soit les politiques, les associatifs ou le grand public, eh bien nous devons être capables, voilà, d'inventer des langages qui soient plus, je dirais, compréhensibles pour ces publics. Et c'est pour ça que, par exemple, à la Cité sur l'immigration, je travaille, moi, en ce moment, sur un projet de spectacle vivant, par exemple. Vous voyez, je ne pas devenir comédien, hein, mais je suis très, très intéressé par cette démarche, parce que c'est un peu nouveau, etc. Mais l'idée, c'est de constituer des collectifs. Vous voyez, on rassemble des compétences et l'historien ne va pas baisser sa garde ou renoncer à ses exigences. Mais il y a tout un travail à faire aussi de ce point de vue-là qu'on a rarement tenté et qui, je crois, vaut le coup d'être fait à partir du moment où on ne confond pas les langages. Ça, c'est, pour moi, c'est extrêmement important parce que là, autrement, on tombe dans l'arbitraire le plus total. Mais ça, c'est un des enjeux qui est devant nous, oui, et qui permettrait de revaloriser un peu peut-être la fonction critique. Parce qu'autrement, là où on va arriver, c'est à dire, la seule manière d'être utile, c'est l'expertise, voyez. Moi, je crois à la nécessité de l'expertise, hein, même si j'ai parfois critiqué. Ce que je critique, c'est quand l'expertise prend trop de place, voyez, trop de place. Mais je crois, dans une démocratie, c'est indispensable d'avoir des experts, mais il faut aussi contrebalancer l'expertise par une intervention d'ordre critique. Et pour que cette intervention critique ait un impact, il faut que ceux qui la font sachent parler d'autres langages que le langage de la science.
Alors je vous pose une dernière question qui me concerne, hein, nous, vos interlocuteurs, puisqu'on concerne les jeunes chercheurs. Alors j'ai envie de vous dire, parlez-nous, quels sont vos... de quelle manière prévoyez-vous l'avenir et notre avenir, puisque les conditions institutionnelles de la recherche ne cessent de se dégrader, et à mon sens elles sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui qu'à votre époque. Donc est-ce que vous entrevoyez des perspectives pour les jeunes chercheurs? Et pour donner une touche plus optimiste à cette question, vous avez contribué à former une jeune génération d'historiens au sein du débat de sciences sociales de Jourdan. Est-ce que vous êtes fier de cette génération? Est-ce que vous pensez qu'elle constitue une relève? Ou au contraire, pensez-vous que le tableau est trop sombre pour pouvoir se permettre la moindre note d'optimisme et de fierté?
Ah non, moi j'ai vraiment une grande admiration et pour la nouvelle génération. Je suis pas du coup tout dans ces discours qu'on entend parfois après nous le déluge ou c'est de pire en pire, etc. Non, moi je pense qu'il y a des tas de choses qui se font, des initiatives. C'est-à-dire on retrouve un petit peu les problèmes qu'on trouve à chaque génération, si vous voulez. Vous avez une grande majorité de gens qui... Bon, ben voilà, ils sont programmés pour un petit peu suivre. Et puis, vous avez une minorité qui rue dans les brancards, qui a des idées, qui a des projets. Bon, ben vous en êtes la preuve et qui nous assure, nous, que les choses vont se poursuivre. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, moi, j'ai toujours pensé que... On n'a pas une vocation à devenir majoritaire. Je veux dire, le jour où la raison et l'esprit critique seront devenus majoritaires, peut-être ça arrivera, mais alors là, je ne suis pas suffisamment optimiste pour le croire. Mais des fois, c'est vrai, je me dis, comment on fait? Il faut maintenir quand même un espace minoritaire, enfin, je veux dire. Mais de ce point de vue-là, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. On a aussi... Ce qui est plus inquiétant, c'est quels sont les potentialités, les outils qu'on peut utiliser ou les moyens de lutte dont on dispose de génération en génération. Alors là, bon, il est vrai que par rapport à mon époque, il y a eu tout un déclin du militantisme, mais en même temps, vous savez, si on fait une analyse critique, bon, on peut pas non plus exalter toujours mai 68, tout ça, c'était extrêmement contradictoire. Bon, il y avait tellement aussi de naïveté dans tout ça. Les choses se recomposent, elles prennent des formes différentes. Le point effectivement que j'ai le plus à cœur, c'est la question par rapport à la question sociale, quoi. Ça, c'est sûr. Là, je pense que l'aggravation de la situation économique, etc., enferme les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Et donc, il faut penser à ça. Je pense que la santé d'une institution comme l'université, elle dépend beaucoup aussi de la diversité et de l'ouverture sur l'extérieur. Donc c'est ça qu'il faut, il faut se battre là-dessus. Et en même temps, eh bien, évidemment, il y a toute une série de choses qui en ce moment sont en train de se passer sur la nouvelle loi, etc., qui posent des tas de problèmes et qu'il faut prendre à bras le corps et se battre pour empêcher. Parce que la question de l'ouverture de l'université, évidemment, c'est la question aussi de la privatisation, enfin, cette espèce de hantise de la privatisation, qui est un problème compliqué. Moi, je ne suis pas forcément contre le fait qu'on ouvre les universités. Moi, j'ai passé une année à Princeton, par exemple, qui est donc l'Institute for Advanced Study de Princeton, qui est un institut privé. J'ai passé une année où personne, bien sûr, n'est venu me dire, parce que tel ou tel mécène a financé l'institution, je dirais presque moins qu'en France, parce que le pouvoir d'État, il existe chez nous. Donc, faut pas non plus... Là, il y a une sorte de naïveté, parfois, de la part de certains critiques de l'ouverture. Il faut des garanties, il faut... Bon. Mais je crois qu'on est dans une période de mutation et que le rôle de la nouvelle génération, c'est de faire un petit peu comme on a pu le faire à notre époque, enfin, une partie d'entre nous, de saisir les occasions qui s'offrent, de les faire fonctionner, de travailler collectivement, donc voilà, de ne pas baisser les bras. Mais je crois que ça, c'est des choses, il n'y a même pas besoin de les dire. Je dirais, on les a en soi, on les a pas, quoi, je veux dire. Donc je suis pas spécialement, moi, pessimiste par rapport à la notion d'engagement, d'investissement, même si les choses se recomposent autrement. Pour le reste, bon, ben là, les problèmes plus généraux d'évolution de nos sociétés, ou de... bon, ben ça, c'est des problèmes. Moi, j'ai pas d'avis de compétent, je dirais, sur les effets de la mondialisation, des choses comme ça. Sont des contraintes très fortes qui pèsent sur tout le monde et qui affectent aussi les universités. Mais je pense, moi, si vous voulez, sans être futuriste, que, enfin, sans avoir une futurologue plutôt, que l'évolution de la discipline historique, bon, ben, se fera comme selon les tendances qu'on observe depuis le début de la discipline, c'est-à-dire une majorité, un mainstream, comme on dit, et puis une minorité qui a envie de voir ailleurs et qui innove, qui est critique, qui, bon, je pense que là-dessus, je suis pas spécialement inquiet sur cette évolution-là.
Merci pour cette touche d'optimisme. Merci beaucoup, Gérard Morier, pour cet entretien.
Merci à vous.